Radio France Internationale, 4h30 à Paris, 5h30 à Khartoum, il est 3h30 en temps universel.
Nemo en piste.
C'est une avancée significative qui pourrait en gêner une autre. La reprise il y a deux jours d'Al-Mala par les forces communes du Darfour, suppléante de l'armée soudanaise. C'est par cette localité, entre autres, non loin de la frontière avec la Libye, qu'une partie du ravitaillement des paramilitaires des forces de soutien rapide transite. La colère des associations de défense des droits des femmes au Tchad après une nouvelle affaire de viol collectif à N'Djamena. Elle dénonce le problème de la culture du viol, encore loin d'être résolu dans le pays. Vous entendrez également Agathon Rwasa, principal opposant au Burundi et dont la candidature aux législatives de juin prochain a été rejetée par la CENI. Il ne voit même pas l'utilité de déposer un recours et fustige un processus électoral corrompu. Et puis, les infrastructures vétustes seraient-elles à l'origine de cet incendie de grande ampleur hier sur le marché de Kantamanto à Accra au Ghana, le plus grand marché de vêtements de seconde main du pays, en partie ravagé par les flammes. Réponse d'un spécialiste en fin de journal. Bientôt 22 mois de guerre au Soudan entre forces de soutien rapide du général Emeti et armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan, notamment soutenue par les forces communes du Darfour. Eh bien, ces dernières ont, ce 1er janvier, enregistré une avancée marquante face aux paramilitaires avec la reprise de la localité d'Al-Mala à la frontière libyenne et à environ 200 km d'El-Fasher, ville encerclée par les FSR depuis plusieurs mois maintenant. Al-Mala, par laquelle passait une partie du ravitaillement des hommes d'Emeti, ce qui pourrait changer la donne autour d'El-Fasher. Explication Ouda Ibrahim.
Les combats autour d'Al-Malha, situés dans une zone désertique sur l'axe menant vers El-Fasher, ont commencé le 28 décembre. Le 1er janvier, date symbolique qui marque le 70e anniversaire de l'indépendance du Soudan, Mini-Arko Minnawi, le gouverneur du Darfour, était sur place pour fêter l'occasion. La défaite des paramilitaires dans cette zone pourrait desserrer l'étau sur El-Fasher, encerclé et bombardé depuis de longs mois par les FSR. En effet, une partie de leur ravitaillement emprunte ce chemin. Les combats autour d'Al-Malha ont été féroces et l'aviation de l'armée est intervenue à plusieurs reprises. Cette bataille a été remportée également grâce au ralliement à l'armée de la tribu Midoub qui habite la région. D'autres localités plus petites comme Malit et Jabal Aïssa sont également aux mains de l'armée.
Ouda Ibrahim, la guerre au Soudan et notamment la crise humanitaire qu'elle a engendrée, on en parle plus en détail dans notre dossier du journal de 8h, heure de Paris. Rendez-vous avec Alexandra Branjon. Autre conflit, autre combat, cette fois dans l'est de la République démocratique du Congo. Rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux se sont une nouvelle fois affrontés ce jeudi, et cela dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi, à plus de 60 km au sud de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Des affrontements qui ont provoqué un déplacement massif au lendemain du 1er de l'an. Correspondant sur place, Héritier Baraka.
Toute la journée, des détonations d'armes lourdes et légères étaient attendues dans les agglomérations de Kaniro et Kinigi, suscita une panique au sein de la population. Selon la société civile locale, ces combats se sont déroulés autour de Katale, où se trouve une position stratégique de l'armée et ses alliés Wazalendo, à une vingtaine de kilomètres de Massissi Centre. Katale est le dernier verrou avant d'atteindre ses chefs-lieux du territoire de Massissi, symbole administratif qui serait convoité par les rebelles, selon des sources concordantes dans la région. Alphonse Mouchecha Migano, chef du groupement Bouabo, affirme que ces échanges de tir entre l'armée et les rebelles ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur village. D'autres combats entre les deux parties sont signalés dans plusieurs localités de la chefferie voisine de Bachali. Le colonel Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo dans la zone, accuse les combattants du M23 d'avoir attaqué leur position. Ces combats d'une grande intensité on repris au Nord Kivu depuis le sommet avorté qui devrait réunir il y a deux semaines à Rwanda. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame. Héritier Baraka, Goma, RFI.
C'est un nouveau signe d'apaisement entre l'Éthiopie et la Somalie après un récent accord sous l'égide de la Turquie. Une visite ministérielle a eu lieu hier, ce qui n'était plus arrivé depuis plus d'un an, et la détérioration des relations entre Addis Abeba et Mogadiscio suite à un rapprochement éthiopien avec le Somaliland, cette province sécessionniste dont la Somalie ne reconnaît pas l'indépendance. Et hier donc, le ministre éthiopien de la Défense s'est rendu chez le voisin, Wely Diallo.
Le ministre somalien des Affaires étrangères a confirmé la venue de la ministre éthiopienne de la Défense sans pour autant préciser l'objet de sa visite. Les relations entre les deux pays s'étaient tendues au mois de janvier 2024 lorsque le Somaliland et l'Éthiopie ont signé un accord qui prévoyait l'ouverture d'une base navale sur la côte du Somaliland. C'était un accord secret dont la nouvelle a entraîné une grave crise diplomatique dans la région puisque le Somaliland est une république autoproclamée depuis 1991 mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Mais depuis, les relations entre les deux pays se sont améliorées. L'Éthiopie et la Somalie ont signé le 12 décembre un communiqué où les deux États conviennent d'abandonner divergences d'opinion et questions litigieuses. Un accord conclu avec la médiation de la Turquie, avec pour objectif principal de garantir à l'Éthiopie un accès fiable, sûr et durable à la mer. Les deux États s'étaient engagés à se rencontrer dans les 4 mois afin de régler les divergences éventuelles.
Wely Diallo, c'est un chiffre record annoncé par le ministère espagnol de l'Intérieur hier. Le nombre de migrants entrés illégalement en Espagne via les îles Canaries est de 46 843 en 2024, dépassant donc le record annuel établi en 2023 qui s'élevait à 39 910. Dans l'ensemble du pays, près de 64 000 arrivées par voie terrestre ou maritime ont par ailleurs été enregistrées. C'est dans ce contexte qu'au moins 27 personnes venues d'Afrique subsaharienne sont mortes ce mercredi au large des côtes de la Tunisie après le naufrage de 2 embarcations de fortune qui tentaient de rallier clandestinement le vieux continent. Les autorités locales annoncent également avoir secouru 83 autres personnes. Ces embarcations étaient parties de la côte près de Sfax dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier avec à leur bord environ donc 110 migrants de divers pays d'Afrique subsaharienne. Des opérations sont en cours pour rechercher d'autres personnes portées disparues, annonce une source anonyme de la garde nationale. Et ce matin, sur RFI, on vous parle de l'augmentation des suicides de migrants tunisiens dans les prisons italiennes. Sombre bilan qu'a dénoncé l'ancien député et militant de la société civile désormais, Madji Karbaï, après la mort d'un migrant tunisien dans la prison de Plaisance, au nord de l'Italie. Et nous appellerons dans nos prochaines éditions notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Au Tchad, une nouvelle affaire de viol collectif fait polémique. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, une jeune fille qui avait passé la soirée au festival d'Ari, à N'Djamena, a été agressée par plusieurs hommes sur son chemin retour. Un épisode qui n'est pas sans rappeler l'affaire Zouhoura, il y a 8 ans. Cette autre jeune fille violée par plusieurs fils de généraux tchadiens. La colère règne et a été ravivée chez les associations de défense du droit des femmes. Pour elles, le problème de la culture du viol est encore loin d'être résolu dans la société tchadienne. Et je vous propose d'écouter Epiphanie Dionrang, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes.
La culture du viol au Tchad persiste parce qu'elle trouve sa racine dans l'impunité dont bénéficient les auteurs. Parce que tant que les responsabilités de ces crimes ne sont pas jugées et condamnées de manière exemplaire, cette culture de la violence continuera à se propager comme une maladie sans remède. Parce qu'on sait vraiment que l'impunité est ce taureau fertile qui nourrit cette barbarie. Parce qu'on se dit que quand un violeur échappe à la justice, cela envoie un message clair pour dire que ce crime n'est pas si grave, il est acceptable. Et on a plusieurs fois eu des cas où nous-mêmes on est allé en justice avec toutes les preuves possibles et que justice n'a jamais été faite. Pour l'affaire de Zouhoura, tout le monde était sorti. Aujourd'hui, Zouhoura est où? On l'a envoyé en France. On a donné un poste à son père et on l'a envoyé quelque part. Jusqu'alors, on ne sait pas est-ce que ces personnes sont réellement condamnées. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ils se disent, même dans la vie, tu vas voir des gens qui vont te dire « Je vais te violer, on va rien me faire. Je vais te tuer, on va rien me faire. » Qui disent à des jeunes filles comme ça. Et on a vu des cas de féminicides qui se sont passés même devant les autorités, même devant la police. Ils n'ont rien fait. Justice n'a jamais été faite.
Epiphanie Dionrang, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes avec Victor Moria, notre correspondant à N'Djamena. On vous en parlait déjà hier matin et aujourd'hui. C'est l'un des principaux intéressés qui prend la parole. Agathon Rwasa, historique opposé burundais, a vu sa candidature aux législatives de juin prochain rejetée par la commission électorale. La mesure concerne également une dizaine d'autres candidats de sa coalition. Celui qui est arrivé deuxième de la présidentielle en 2020 dénonce une décision qui n'a pas de sens et une mise au ban des candidats indépendants au profit du parti au pouvoir. S'il avait 48 heures pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, Agathon Rwasa reconnaît lui-même ce matin qu'il n'en voit pas l'utilité et fustige un processus électoral tronqué.
Ce que la CENI essaie de faire maintenant, c'est de faire à ce que le processus électoral ne soit plus démocratique, puisque c'est une course du CNDD-FDD contre le CNDD-FDD et ses acolytes, bien entendu. Et puis, la CENI devrait garantir la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral. Ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est contre à cette disposition parce qu'elle semble uniquement travailler pour satisfaire la volonté du parti CNDD-FDD, lequel parti est responsable même de la nomination de cette CENI-là. Autrement dit, nous avons un processus électoral mal parti, nous avons un processus électoral qui ne peut nullement prétendre être démocratique et nous considérons que tout ce que le CNDD-FDD et ses organes sont en train de faire, ce n'est que dans l'optique uniquement de faire du CNDD-FDD en parti-État.
Agathon Rwasa avec Paul Lorgerie. C'est une mesure saluée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Il salue en effet l'abolition de la peine de mort au Zimbabwe, mais demande dans le même temps que soit supprimée la disposition prévoyant que cette abolition puisse être levée en cas d'état d'urgence. Pour rappel, le Zimbabwe a officiellement aboli mardi la peine de mort après que le président Emmerson Mnangagwa a promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une soixantaine de condamnés à mort. Le Maroc, dans ce journal, est la région de Marrakech où la gendarmerie royale a démantelé il y a une semaine une clinique psychiatrique clandestine. 19 personnes au total y étaient retenues, parfois depuis 2 ans et dans des conditions décrites comme inhumaines. Les patients souffrant de pathologies mentales ou d'addiction y avaient été envoyés par leur famille qui pensait que leurs proches y recevaient des soins. Depuis Casablanca, Mathias Reynal.
C'est dans une ferme isolée que les victimes étaient détenues, sans aucune prise en charge ni suivi thérapeutique. L'affaire a fait réagir la société civile qui demande à ce que les responsabilités soient établies. Abdelaziz Jbilou est le vice-président de l'Association marocaine des droits humains pour la région de Marrakech.
C'est douloureux de voir les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les gens séquestrés.
Pour l'association, l'affaire ne fait que commencer.
Nous appelons les autorités à approfondir l'enquête dans l'hypothèse où il y aurait d'autres lieux de détention et d'autres personnes qui seraient séquestrées.
6 suspects ont été arrêtés, dont le propriétaire de la ferme et son fils, ainsi qu'un infirmier qui aurait joué le rôle d'intermédiaire auprès des familles.
Nous, à la MDH, on est sûr qu'il y a une bande organisée spécialisée dans le trafic d'êtres humains. Elle ramène les gens de différentes villes, les séquestre dans des fermes. C'est possible qu'il y en ait même plusieurs.
Les 19 victimes libérées ont été transférées à l'hôpital psychiatrique provincial pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte pour traite d'êtres humains, torture et travail forcé. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
La fin de ce journal au Ghana, où un nouvel incendie dévastateur a frappé Accra. Hier, le marché de Kantamanto, plus grand marché de vêtements de seconde main du pays, a été en grande partie détruit par un incendie, laissant des centaines de commerçants sans ressources. Un départ de flammes qui semble avoir été provoqué par des feux d'artifice. Et malgré l'intervention rapide de 13 camions de pompiers, les efforts ont été entravés par un manque d'accès à un point d'eau permettant aux flammes de reprendre. Un événement qui relance la question des incendies récurrents dans les marchés ghanéens. Ismaïla Kwaku Arieti est spécialiste des incendies. Selon lui, des installations électriques non réglementées et les structures en bois rendent ces lieux particulièrement vulnérables.
Les incendies dans les marchés ghanéens sont souvent causés par des installations électriques défaillantes. Les marchés sont composés de nombreux petits magasins et il arrive fréquemment qu'un commerçant construise une boutique et se connecte à l'électricité d'un autre magasin sans en informer les autorités. Ces connexions improvisées, souvent non conformes, sont à l'origine des incendies. De plus, les structures utilisées sont principalement en bois, un matériau hautement inflammable qui favorise la propagation rapide des flammes. D'ailleurs, certains commerçants cuisinent directement dans leur boutique. Ainsi, lorsqu'un feu est oublié ou mal éteint, l'incendie devient inévitable. Les connexions et installations électriques devraient être mieux réglementées afin d'éviter que chacun ne construise une structure quelconque et ne se connecte à l'électricité d'un autre magasin sans respecter les normes ou obtenir une autorisation appropriée. Bien que des réglementations existent, leur application reste insuffisante. Il est donc crucial de renforcer les contrôles et d'éduquer les commerçants sur la sécurité incendie pour prévenir ces tragédies.
Ismaïla Kwaku Arieti, joint par Christina Okello, vous le retrouvez dans le dossier de la rédaction du journal de 7h30, heure de Paris, donc sur cet incendie ravageur sur le marché de Kantamanto. RFI, 4h45 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre vos rendez-vous habituels, le dossier Afrique Économie, ce vendredi sur les importations de poulets congelés au Bénin. Elles sont désormais interdites depuis le 31 décembre. Les professionnels de la filière s'en frottent les mains, mais avec prudence tout de même. Eux aussi se réjouissent, les géants de la télécommunication, avec le développement de la fibre optique et donc du recyclage nécessaire du cuivre. L'or rouge pourrait leur rapporter gros. Et puis le journal des territoires français de l'océan Indien avec Mayotte à la une. Mais tout de suite, notre reportage du jour. En Centrafrique, à Boire précisément, sans conteste la capitale du haricot, aliment essentiel dans les assiettes du pays. Cette ville, située dans le nord-ouest du pays, à environ 150 km de la frontière camerounaise, a été fondée au 19e siècle par Mbarta, chasseur, cultivateur, et est devenue une ville agricole cosmopolite. Rolf Steve Domialeux s'est rendu sur place. Reportage.
Bienvenue à la vallée, un quartier historique en plein centre-ville de Boire. Ce matin, Joseph Naïmon, l'un des sages de cette ville, nous conduit au pied du monument de l'indépendance à plus de 100 mètres d'altitude. La légende raconte que son arrière-grand-père, le premier habitant, fut un cultivateur.
L'histoire de Boire a commencé l'année.
L'histoire de Boire a commencé avec sa fondation par Mbarta, un agriculteur. Il y vivait avec sa famille. Un jour, les premiers explorateurs français qui arrivaient demandèrent le nom de la ville. Ne comprenant pas la langue, Mbarta a cru qu'ils demandaient ce qu'ils cultivaient dans ce lieu. Il a alors répondu tout simplement « War ». « War » signifiant en effet « haricot blanc » en langue locale.
Les colonisateurs ne pouvant à leur tour bien prononcer le terme « War », ils ont baptisé la ville « Boire ». Mais depuis le 19e siècle, le haricot reste au centre de la vie de la localité. Joseph Naïmon.
Boire demeure la première productrice de haricots blancs, car quasiment tous les agriculteurs s'intéressent à cette culture. Après Mbarta, ses enfants, Zariherman, Karinou et d'autres ont beaucoup soutenu ce secteur. Ils ont par exemple instauré la distribution gratuite des intrants pendant la période de semence. Ils ont aussi facilité l'accès aux terres ou encore la création de coopératives.
Âgé d'une soixantaine d'années, Dangbaya, l'un des descendants de Zariherman, nous invite dans son champ au pied d'une colline. Père de 15 enfants, il fait partie des milliers d'agriculteurs qui ont prospéré en cultivant le haricot.
Le haricot, c'est ma vie. Cet aliment fait notre fierté, moi et mes enfants. Faute de moyens, depuis des siècles, on cultive avec les moyens artisanaux. Mais avec la volonté, le rendement est toujours aussi important. Chez moi, tout le monde consomme le haricot et on mange et on se fait aussi de l'argent.
Chaque année, la préfecture de Nanamambéré ravitaille la capitale et les autres régions du pays avec plusieurs tonnes de haricots. Epiphanie Nabozuina est économiste.
Tout le monde sait que Boire est la plus grande ville productrice de haricots. Malgré l'insécurité et l'état piteux des routes, elle continue de ravitailler les autres régions et c'est aussi un facteur essentiel de croissance économique qui conduit nécessairement à un développement économique. Il est alors important d'améliorer la commercialisation pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux crédits et aux intrants nécessaires pour en faire face davantage.
Aujourd'hui, la ville de Boire compte plus de 60 000 habitants et fait partie des poumons économiques du pays, notamment à cause de la culture de haricots. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en Peace.
4h49 ici à Paris, les principaux titres de ce vendredi 3 janvier 2025. La confusion règne en Corée du Sud autour d'une tentative d'arrestation du président déchu. Le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités a annoncé tout à l'heure que l'exécution du mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol avait commencé, mais une confrontation a éclaté peu de temps avec les services de sécurité. Les enquêteurs ont pu entrer dans la résidence de l'ex-dirigeant à Séoul. Ils ont franchi un premier cordon de militaires, mais le service de sécurité présidentielle semble les avoir empêchés d'aller plus loin. Le FBI, les enquêteurs fédéraux américains, estiment que l'auteur de l'attaque à la Nouvelle-Orléans a finalement agi seul. Shamsuddin Jabbar, ex-militaire de 42 ans, avait enregistré plusieurs vidéos dans lesquelles il disait soutenir l'organisation État islamique. Les enquêteurs estiment finalement qu'il était le seul à avoir planifié cet attentat. Et puis des affrontements font au moins 24 morts dans le nord de la Syrie, annonce de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, selon qui en majorité des combattants de factions pro-turques ont été tués dans des combats contre les FDS, des forces dominées par les Kurdes. Les combats ont eu lieu hier dans deux villages du sud de Manbij, une ville récemment reprise par des groupes réputés favorables à Ankara. C'est officiel depuis le 31 décembre dernier. Au Bénin, l'importation de poulets congelés est interdite. Objectif, favoriser le développement de l'élevage local et travailler à l'autosuffisance du pays. Jusqu'ici, plus de 100 000 tonnes de poulets congelés étaient importées chaque année à destination du marché local, mais aussi pour la réexportation. Une mesure qui satisfait la filière, même si des interrogations persistent, notamment concernant la capacité à produire les quantités suffisantes et à des prix compétitifs. Le dossier Afrique Économie, signé Charlotte Cossé.
L'essentiel est de produire, d'avoir les poulets pour qu'il n'y ait pas manque de poulets sur le marché. Donc, je pense que je suis en train de m'apprêter pour ça.
Ospisak Povo élève des poulets de chair depuis 2018. À l'issue de l'annonce des autorités, il n'hésite pas et engage rapidement des aménagements de son exploitation sur fonds propres et grâce à du microcrédit.
Je faisais les poulets chers, mais pas en quantité comme ça. Je faisais 2000, 3000. Mais vu qu'il y a l'interdiction des poulets congelés en cours, j'ai aménagé déjà deux bâtiments. De 5000. Les bâtiments seront entièrement mécanisés.
Un optimisme que veut partager l'interprofession avicole du Bénin, Léon Anago, son président.
Même en 2025, les acteurs sont à même de produire déjà pour la consommation locale. Nous avons déjà fait une cartographie. Nous avons déjà les modules, les bâtiments, les infrastructures ont commencé déjà par être mis en place. Les modules de 5000, de 10000 et que nous voulons mécaniser. Donc, à ce niveau, aucun problème. Nous avons quelques déficits en poussins, mais d'ici à la fin du premier semestre, il y a des industriels qui sont déjà installés au Bénin. Et par rapport à leur projection, le Bénin sera autosuffisant en matière de poussins d'un jour.
Malgré tout, des questions se posent encore. La disponibilité et les prix de l'alimentation en cas d'explosion de la production de volailles, la mécanisation des exploitations, l'accès au financement pour les éleveurs ou encore les besoins d'abattoirs en quantité suffisante. Autre sujet de préoccupation, les importateurs joueront-ils le jeu?
Notre souhait, nous, au niveau de l'interprofession, c'est que les importateurs deviennent des experts en distribution. Parce que c'est des gens qui, non seulement ils ont la maîtrise, ils ont des champs froids, ils ont la maîtrise de la conservation de ce produit-là. C'est eux qui l'importaient, c'est eux qui distribuaient mieux. Ça, c'est un travail que l'interprofession va se donner. Nous allons nous rapprocher d'eux pour que nous ayons des contrats au lieu d'être importateurs qui se reconvertissent dans la distribution.
Tout en rappelant que cette initiative est la troisième de ce type, l'interprofession salue la position volontariste des autorités. Ospisak Povo lui espère que le marché va suivre pour pouvoir rentabiliser d'ici quelques années ses investissements.
Charlotte Cossé pour le dossier Afrique Éco. Vous le retrouvez sur l'application RFI Pure Radio. Le cuivre, au cœur de la chronique des matières premières du jour, son recyclage pourrait devenir l'une des principales mannes financières dans les prochaines années pour les entreprises de télécommunications, grâce notamment au développement de la fibre optique qui va pousser à accélérer le remplacement des réseaux de câbles en cuivre. 10 milliards de dollars dans les 15 prochaines années, voilà ce que cela pourrait rapporter, mais là aussi, des doutes subsistent. C'est un sujet signé Marie-Pierre Olfan.
La tendance est inévitable, le développement de la fibre optique signe la fin des anciens réseaux de câbles à base de cuivre qui ont permis l'essor des téléphones fixes puis l'accès à Internet par ADSL. En France, par exemple, Orange prévoit de supprimer le réseau de câbles en cuivre d'ici 2030. La manne que pourraient percevoir les entreprises de télécommunications ces 15 prochaines années est estimée à 10 milliards de dollars au total. Mais cela ne signifie pas pour autant le jackpot. Plusieurs opérateurs assurent même faire un bénéfice négligeable pour l'instant en raison de la complexité du procédé d'extraction du cuivre des câbles avant qu'il soit recyclé pour devenir une matière première à nouveau commercialisable. Même si l'opération est coûteuse aujourd'hui, les prix du cuivre sont appelés à augmenter dans les prochaines années et cela n'a pas échappé à ceux qui ont déjà commencé à intensifier leurs efforts de recyclage, comme l'américain AT&T. L'industriel annonce avoir recyclé plus de 32 000 tonnes depuis 2021 et la liste de ceux qui se sont engagés sur le même chemin est longue. On peut citer le Suédois Telia ou encore le Norvégien Telenor. Ce cuivre recyclé vient s'ajouter à l'offre minière existante sur un marché qui est appelé à se tendre dans les prochaines années. Parce qu'il conduit l'électricité comme aucun autre métal, le cuivre est un composant clé des batteries de véhicules électriques et donc directement associé à la transition énergétique. L'industrie pourrait avoir besoin de 70% de cuivre supplémentaire d'ici 2050, mais faute d'investissement minier suffisant, le déficit en cuivre pourrait arriver plus vite que prévu.
Le journal des territoires français de l'océan Indien pour refermer cette demi-heure. À la une, ce projet de loi d'urgence pour Mayotte, finalement pas présenté en Conseil des ministres. Édition présentée par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour. Le Premier ministre, François Bayrou, l'avait pourtant officiellement annoncé lors de son déplacement dans le département 101 en début de semaine. À Paris, les explications de Serge Massot.
Lors de son déplacement à Mayotte, François Bayrou avait insisté sur la nécessité d'associer les élus mahorais pour s'assurer que le projet de loi d'urgence corresponde bien aux besoins de Mayotte. Et c'est la raison invoquée pour justifier ce report de quelques jours. Du côté de Matignon, on nous explique que le plan Mayotte debout avait un sous-titre « Reconstruire avec et pour les mahorais » et que la démarche du Premier ministre visait à co-construire ce projet de loi qui a donc été enrichi par les remontées de terrain des élus, mais aussi des acteurs du monde éducatif, du logement et de la santé. Ce texte prévoit la création d'un établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte qui devra coordonner les travaux de reconstruction. Il prévoit aussi des dérogations aux règles d'urbanisme et de marché public pour accélérer cette reconstruction. Ce projet de loi sera finalement présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine pour être examiné par l'Assemblée nationale dans les deux semaines suivantes.
Conseil régional, puis conseil départemental et enfin mairie de Saint-Denis et élus locaux, le nouveau ministre des Outre-mer n'a oublié personne hier matin à l'île de la Réunion. De retour de Mayotte avant de repartir pour Paris, Manuel Valls a profité de cette escale dans l'autre département français de l'océan Indien pour « rassurer » entre guillemets les Réunionnais. Aider Mayotte ne signifiera pas délaisser la Réunion.
Il faut le souligner, vous participez de cette solidarité nationale. Mais comme l'a souligné François Bayrou il y a 48 heures ici même, connaissant les défis, les fragilités aussi, vous venez de le dire, de la Réunion, et de manière très très claire et très ferme, il est hors de question qu'on puisse, à cause de cette catastrophe, je pense bien sûr aux Mahorais, on aggrave des difficultés ici. Donc j'y suis attentif, le préfet de la Réunion aussi, sur toute une série de sujets pour qu'on soit très vigilant sur ce sujet. Mais en revanche, je sais que la Réunion, votre collectivité, le département participeront de la solidarité et de la reconstruction de Mayotte.
Mayotte, justement, avec cet hélicoptère de l'armée de terre qui ravitaille les zones les plus isolées du département 101, celles qu'il n'était de toute façon, même sans cyclone, pas si facile d'atteindre. Mais avec le Puma, ce sont 1500 kilos qui peuvent être livrés en une seule fois. Reportage Aurélien Février.
Voici le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Depuis plusieurs jours, c'est lui qui effectue la livraison aérienne de vivres dans le département.
On va nous dépoter le plus rapidement possible les palettes et ensuite on embarque directement dans la machine pour rentrer ici.
Ils sont une dizaine de militaires à bord de cet hélicoptère. Direction Vaïbé. Le Puma de l'armée de terre va effectuer 5 rotations pour amener plus de 7 tonnes de vivres.
On vient avec le Puma, c'est pouvoir aller dans les endroits où c'est pas forcément accessible au début parce qu'il fallait désenclaver un petit peu l'île. Donc c'est apporter cette aide au plus près de la population, là où elle en a besoin.
De l'eau, des pâtes sont déchargées, 3 bouteilles et un paquet par personne. Pas de quoi satisfaire la population déjà présente.
La difficulté, c'est que déjà on nous prévient le jour même de la distribution, donc on n'a pas le temps de nous organiser.
La mission des militaires prend fin sur cette dernière livraison de pâtes. La distribution, elle, se fera sans eux.
Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Excellente journée à vous également, Benoît Ferrand. Bientôt 5h à Paris.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Le grand écrivain Peul Amadou Empateba
et remis à l'honneur grâce à un livre d'art où pour la première fois son long poème en prose Kaïdara est illustré par un peintre contemporain Omar Ba. Kaïdara, dans toute sa splendeur, vous sera présenté par son éditrice Joséphine Barbereau.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.